Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Les images sont absolument insoutenables et il m'a fallu arrêter le diaporama au bout de la troisième photo. Pourtant, ces images, rapportées par un déserteur de l'armée syrienne, sont indispensables. Elles sont, comme le souligne Sioba O'Grady, journaliste pour Slate, des preuves de violations massives des droits de l'homme perpétrées par le gouvernement syrien. Des corps, alignés sur le sol, amaigris, lacérés, défigurés. Des photos qui rappellent les livres d'histoire au chapitre 39-45. Le déserteur de l'armée, qui se fait appeler César, explique « Mon travail consistait à prendre des photos de la mort avant et après la Révolution. Le travail a grandement augmenté après la Révolution. » Au total, 55 000 photos auraient été prises entre 2011 et 2013. Le musée de l'Holocauste à Washington expose certaines d'entre elles depuis début octobre. Le régime syrien affirme qu'elles sont fausses. Depuis le début du conflit, en mars 2011, environ 200 000 Syriens ont été tués.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le sous-marin. Dans une seconde partie d'émission, nous recevrons Pierre Lebas, ex-Rouda, qui nous parlera de son projet solo. Thomas livrera également son regard sur le monde extérieur avec une nouvelle rubrique dans les eaux internationales. Et Anaïs nous fera part de ses découvertes culturelles. Mais d'abord...
Allez, poussez bien, monsieur. Poussez, poussez, poussez. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est son premier ?
Bah oui, il a 18 ans. C'est un jeune.
Ouais. Et vous êtes ?
Grand frère.
D'accord. Et la future maman, elle est passée où ?
Ah bah non, elle s'est barrée. Lui était amoureux, il s'est cru malin et voilà, il a pas pris de contraceptif.
Poussez, poussez, c'est bien. Voilà, ouais, poussez.
C'est,
bien. C'est marrant, c'est vraiment toutes les mêmes. Ça, quand il s'agit de tirer un coup, c'est vraiment les premières. Bah alors, pour assumer leur responsabilité, il n'y a plus personne.
Ah bah du coup, là,
bon, c'est... messieurs, je vous dérange pas, là.
Un spot de l'INPES, l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé, qui date de 2010, qui visait à sensibiliser sur les questions de contraception, des questions au goût du jour. Vous avez peut-être vu fleurir ces derniers mois des placards entiers sur le thème « Choisir sa contraception, doit-on préférer la pilule au préservatif, le préservatif à l'implant ?» Que sais-je encore ? Bonsoir Pascal Adeline.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère conjugale et familiale au planning familial. Et donc avec vous, on va essayer de... d'en comprendre un peu plus sur cette contraception, savoir quels moyens, puis essayer d'enlever tous ces préjugés qu'on peut avoir sur les moyens de contraception. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez récolté plein de préjugés, vous en récoltez encore sur la contraception ?
Ah oui, alors ça c'est vraiment... Oui, ça fait partie de la pratique quotidienne, ça c'est certain. On entend dire énormément de choses, que ce soit aussi bien sur la pilule que sur le préservatif, que sur le stérilet, l'implant, enfin, toutes les méthodes qui peuvent être utilisées ont leurs détracteurs, pour des raisons très variables, très variées, et aussi parce qu'il y a, non pas une désinformation, mais parfois un trop-plein d'informations avec des sources extrêmement hétérogènes, ce qui fait que vous allez sur Internet, vous ne choisissez pas obligatoirement le meilleur des sites pour aller vous informer, et qu'on entend plein de bêtises.
Alors justement, on va essayer d'y voir plus clair. On va commencer, on va faire méthode par méthode, hein, ça va être peut-être plus simple. On va commencer par le préservatif qui reste le moyen le plus utilisé chez les 15-17 ans, d'après une étude qui s'appelle Féconde de 2012. Après, ça diminue au profit de la pilule. Alors certes, le préservatif, qu'il soit féminin ou masculin, reste le seul moyen de contraception qui protège également contre les IST, mais l'efficacité pratique est de seulement 85% pour le masculin et 79% pour le féminin. Pourquoi ?
Alors, il y a vraiment un problème de... C'est tout bête, hein, mais c'est un outil. Hein. Le préservatif, c'est un outil. Un outil, il faut apprendre à s'en servir. On sait très bien que pour que, je dirais, l'utilisation du préservatif, notamment le masculin, qui est beaucoup plus utilisé que le féminin aujourd'hui, notamment dans la population jeune, pour être à l'aise avec un préservatif masculin, pour le mettre facilement, pour ne pas se poser de questions, que ça devienne un automatisme, il faut s'en être servi déjà entre 50 et 100 fois.
50 et 100 fois ?
Oui, pour avoir vraiment bien intégré le geste. Hein, et qu'il n'y ait plus de questions sur ah bah, est-ce qu'il est à l'endroit, est-ce qu'il est à l'envers, est-ce que j'ai bien pincé le bout du réservoir, pour que ça se fasse facilement, qu'il n'y ait pas d'angoisse aussi par rapport à ça, hein, parce que ça peut en créer. Il faut s'en servir, c'est comme n'importe quoi, le cerveau, pour que ça marche, il faut s'en servir, le préservatif, c'est la même chose. Donc déjà, il faut avoir réussi à s'en servir un certain nombre de fois, première chose. Et puis d'autre part, parce que la sexualité, c'est pas un moment où on est dans la pure rationalité. On est pris par ses émotions, on est pris par son désir, on fait les choses parfois un peu de travers. Et puis effectivement, il peut y avoir des ratés, c'est certain. Hein. Alors les ratés, ça peut être une mauvaise pose du préservatif, comme je le disais. Ça peut être parce qu'on récupère un préservatif qui était dans le tiroir de la table de minuit depuis un petit moment, qu'il est périmé, c'est comme les yaourts, il y a une date de péremption et qu'il est fragile. Ça peut être parce qu'il a été mal conservé, qu'il a pris la chaleur. Il y a plein de raisons comme ça qui vont faire que c'est pas automatique, même si, effectivement, aujourd'hui, c'est le seul moyen de contraception qui soit aussi une protection contre les IST. Il y a encore des ratés, ça va progresser.
On l'utilise à quel moment de sa sexualité, à quel moment de sa vie sexuelle, le préservatif ?
Ça, c'est une très bonne question. Alors, je n'ai pas une vision exhaustive, parce que je ne connais quand même pas la sexualité de tous mes contemporains. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup d'incitations pour la population jeune à l'utiliser. Donc, il est très présent à ce moment-là. Il peut être présent aussi, il peut revenir plus tard dans la vie d'un couple parce que, par exemple, après une grossesse, il va y avoir une interrogation, j'ai plus envie de prendre la pilule, je ne sais pas encore exactement vers quelle méthode je veux aller, ou j'en ai un peu marre de prendre quelque chose. Donc, c'est le couple qui va décider que, sur une période, c'est l'homme qui va, en fait, être à l'initiative de la méthode contraceptive et qui va la gérer directement par le préservatif. Et puis, vous savez, on a des rythmes de vie qui changent. Parfois, on se sépare, on recommence un nouveau couple, donc on fait des rencontres. Et là, de nouveau, le préservatif va refaire son apparition. Du moins, c'est ce qu'on souhaiterait, parce qu'on se rend compte que parfois, les gens un peu plus âgés sont finalement moins réceptifs aux avantages du préservatif, parce qu'ils pensent qu'ils sont passés à... Enfin, ils sont plus concernés.
Ils ont plus l'âge.
Voilà, ils ont plus l'âge. Ce qui est dommage, parce que je pense que, franchement, il n'y a pas d'âge pour ce genre de choses.
Alors, après le préservatif, vient la pilule en général. Vers 20-25 ans, les jeunes femmes prennent la pilule.
Même plus tôt.
Même plus tôt.
Oui, les adolescentes.
Il n'y a pas, de minimum, de toute façon.
Non, l'intérêt de la pilule, alors déjà, parfois, alors ça, c'est pour des raisons purement médicales que je ne pourrais pas vous expliciter plus que ça, puisque je ne suis pas médecin. Mais parfois, on va mettre sous pilule une très jeune fille qui n'a pas encore de vie sexuelle, mais pour des raisons de régularisation du cycle, enfin de mise au repos plutôt au niveau de ses ovaires, parce qu'elle a des règles très douloureuses, très anarchiques. Enfin bon, il peut y avoir d'autres raisons purement que liées à la sexualité. Et puis, les jeunes filles prennent souvent la pilule. C'est souvent d'ailleurs leur demande d'aller sur une pilule. C'est quand on leur parle d'autres méthodes qu'éventuellement elles vont se diriger vers autre chose.
Et est-ce que la pilule a encore la cote malgré la controverse qu'elle a connue il y a un an ou deux concernant les thromboses veineuses et les pilules de 3e et 4e génération ? Est-ce qu'on craint la pilule désormais ou est-ce qu'on...
Alors, il y a eu un petit mouvement de flottement effectivement au moment où sont sortis les procès, puisqu'il y a eu des procès par rapport à certaines prises de pilules. Il y a des jeunes filles qui avaient des problèmes de santé importants. Il y a eu un moment de flottement, nous on l'a vu par des coups de fil qu'on s'est mis à recevoir sur une période assez courte, ça n'a pas duré très longtemps, où des jeunes filles, des jeunes femmes nous disaient je prends telle pilule, je sais que c'est une pilule de 3e génération, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'arrête ? Bien sûr, on les renvoyait vers le médecin prescripteur en disant discutez-en avec votre médecin, il ne vous l'a pas non plus prescrit par hasard, il y a des bonnes raisons, il s'est assuré d'un certain nombre de choses avant de vous la prescrire, donc calmez-vous et surtout n'arrêtez pas tout. Parce que ça, c'était le risque, qu'elles arrêtent tout, qu'il y ait une zone blanche dans leur contraception et qu'on se retrouve avec des débuts de grossesse non souhaités.
Hein. Alors la pilule sur le papier, c'est super chouette, c'est 99,7% d'efficacité. Ouais. Et puis en réalité, c'est 91%. Pourquoi ?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, les 99,7% qu'on peut avancer par rapport à l'efficacité, c'est l'efficacité, quand on est dans un cas d'observance optimale, c'est-à-dire avec aucun oubli, vraiment une observance parfaite, qui est une observance un peu de robot, parce que personne n'est parfait.
Tous les jours à la bonne heure.
Voilà, tous les jours à la bonne heure, en réfléchissant que si on a un vomissement moins de 3 heures après la prise de pilule, ça correspond, on l'a en fait, on ne l'a pas intégré, donc il faut en reprendre une, il faut y penser. Quand on est malade, des fois on n'y pense pas. Hein. Quand vous avez une bonne gastro,
c'est pas la première chose qui vient à l'esprit.
Voilà, exactement. Donc... là, on est dans une espèce de situation un peu idéale. Alors, pourquoi il y a d'autres, un pourcentage qui est plus faible ? Ben, d'une part, parce qu'effectivement, il va y avoir des ratés. Ça, c'est certain. Alors, quand on pense au nombre d'années où une femme prend la pilule dans sa vie, se dire qu'une fois, elle l'oublie, ben, franchement, ça n'a rien d'étonnant. Vous passez des examens, vous êtes en stress, vous déménagez, je ne sais pas, il se passe quelque chose dans votre existence qui fait qu'il y a une rupture ou un deuil dans la famille. Enfin, peu importe, il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent faire qu'une fois, eh ben oui, on n'y pense pas. Il y a aussi le fait que les personnes ne sont pas obligatoirement bien informées sur les protocoles à mettre en œuvre si elles se rendent compte qu'elles en ont oublié une. Ça aussi, on le voit parce qu'on a des coups de fil par rapport à ça ou des mails. Donc voilà, je me rends compte, j'ai oublié ma pilule, qu'est-ce que je fais ?
Alors rapidement, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors ça dépend un petit peu de la pilule qu'on prend, parce que si c'est une pilule en continu, en discontinu, ce qui est certain, c'est qu'on n'arrête pas.
Hein, on n'arrête pas,
on prend la pilule qu'on a oubliée, quel que soit le moment où on s'en rend compte, on la prend et on va continuer sa plaquette normalement. Ça veut dire qu'il y aura un jour, on en prendra deux. C'est pas très grave. Ça pose pas de problème particulier, mais il faut pas rompre la couverture contraceptive. Après, si on a eu des rapports non protégés dans les 5 jours qui ont précédé l'oubli de pilule, il va falloir prendre une pilule du lendemain en plus. Après, ça dépend aussi si c'était une pilule sur votre dernière semaine ou pas. Donc, ce que je propose vraiment à vos auditrices, c'est que si elles sont en situation, elles nous passent un coup de fil ou elles appellent leur médecin ou le planning, ou un centre de planification sur Angers, qu'elle nous explique la situation, on leur redonnera le protocole de manière précise, en fonction de ce qu'elles prennent, et de là où elles en étaient sur leur plaquette. Parce que là, si je donne toute l'info avec toutes les formes possibles, je pense qu'elles vont être noyées, et puis ça va être casse-pieds.
On va se renseigner au coup par coup, alors. Voilà. On verra après Panda Beer et avec Mister Noah, qu'il y a d'autres méthodes contraceptives, on les expliquera.
Don't
20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Nous sommes avec Pascal Adeline du planning familial et on parle ce soir contraception. Alors voilà, on a essayé de balayer quelques préjugés sur le préservatif, la pilule. Attaquons-nous maintenant au stérilet. Le stérilet qui fait l'objet de beaucoup de préjugés, oui. Comme quoi le stérilet ne conviendrait pas aux femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Pascal Adeline, qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Bah écoutez, par exemple, au Royaume-Uni, hein, le stérilet au cuivre est une des premières méthodes contraceptives qui est prescrite aux jeunes filles, donc qui, dans l'immense majorité des cas, sont nullipares, hein, donc n'ont jamais eu de grossesse. Aujourd'hui, dans un centre de planification classique, hein, je dirais, à Angers, on a la chance d'en avoir deux, un hein, boulevard Saint-Michel et un à l'hôpital. Il n'y a pas de réticence particulière à poser un stérilet sur une personne qui n'a jamais eu de grossesse, à partir du moment où il n'y a pas, bien sûr, de contre-indication médicale précise. Il faut savoir qu'il y a même un modèle de stérilet qui est plus petit que le stérilet classique, le stérilet au cuivre, qu'on peut justement pouvoir plus facilement poser sur une personne dont l'utérus n'a jamais été dilaté par une grossesse. Hein. Donc non, il n'y a pas de contre-indication.
Je Mais pense alors que... pourquoi ?
Pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Déjà, regardez le nom qu'on a donné à ce dispositif-là. On appelle ça un stérilet.
Donc, il y a quand même. C'est pas vendeur.
C'est pas très vendeur et ça montre bien le préjugé qu'il y avait au départ par rapport à ce dispositif-là. Alors que son vrai nom, ça s'appelle un DIU, un dispositif intra-utérin.
C'est pas
très vendeur non plus. Mais je trouve que c'est quand même moins négatif que l'histoire du stérilet. L'idée, c'était de se dire, un stérilet, c'est bien pour une femme, d'abord, si elle a déjà eu des grossesses, et s'il y avait éventuellement une complication, c'est pas grave, elle aurait déjà eu des enfants, si elle pouvait plus en avoir après, ce serait moins grave. Ça, c'est très relatif, hein, comme point de vue, quand même. Et puis aussi, il y avait, à mon avis, quelque part, l'idée qu'une jeune fille va être moins vigilante quant à sa santé, va peut-être moins vite être alertée si elle a un petit truc qui va pas bien, donc elle risque plus facilement d'avoir des infections, elle risque éventuellement plus facilement d'être dans des partenaires multiples. Enfin, il y avait toute cette idée-là qui disait, en gros, la jeune fille, elle est moins responsable d'elle-même, elle va avoir des attitudes, ouais, un comportement qui l'est moins aussi, donc il vaut mieux pas lui mettre en place un dispositif de cet ordre-là parce qu'il y a plus de risques. La réalité de terrain montre que c'est pas vrai, quoi. Clairement, c'est pas vrai. Et vous avez actuellement pas mal de jeunes filles ou de jeunes femmes qui ne souhaitent pas, par exemple, aller vers une contraception hormonale et pour qui c'est une très bonne solution, le stérilet au cuivre, le DIU au cuivre.
Il y a des méthodes hormonales qui ont fait leur apparition au début des années 2000. En tout cas, on en a davantage entendu parler à partir de ce moment-là. Ce sont le patch, l'anneau vaginal et l'implant.
Et le stérilet hormonal.
Et le stérilet hormonal. Le patch, le préjugé, c'est ouais, super, on va se coller ça sur la peau, est-ce que ça a vraiment fonctionné ? Est-ce qu'on peut croire à ces méthodes ?
Pourquoi pas, puisqu'on croit bien au patch pour, par exemple, le sevrage tabagique. Hein, c'est simplement, c'est le même
est-ce
principe.
Est-ce que ça ne va pas se décoller dans la douche ?
Alors, on les teste quand même, hein, ils font un peu attention. Ils savent que les femmes, elles vont avoir besoin de se laver, même quand elles portent un patch. Donc, il est évident que c'est testé. Le gros inconvénient du patch, il n'est pas dans son efficacité ou même dans son support. Il est dans le fait qu'il n'est pas remboursé. Ça, c'est un gros souci.
Ça coûte combien ?
Faut partir sur... C'est comme l'anneau, hein, on est sur entre 10 et 15 euros par mois. Effectivement, c'est un frein. Ça, c'est un frein. Après, c'est vraiment une question. En fait, quand vous dites qu'il y a des nouvelles formes hormonales qui sont apparues, c'est vraiment la forme qui. Parce que le cocktail hormonal, il est toujours le même. Hein. Dans le patch et dans l'anneau vaginal, c'est un cocktail œstrogène-progestérone. Dans l'implant, c'est uniquement de la progestérone. C'est simplement, en fait, les labos ont cherché une méthode qui permette d'avoir un apport hormonal sans passer par la prise quotidienne de pilules, puisqu'on savait qu'il y avait ce problème des oublis de pilules. Donc on s'est dit, comment on peut limiter ce risque d'oubli ? Donc l'anneau, on le met en place, on le laisse en place pendant 3 semaines, on n'a pas à y penser pendant 3 semaines, donc ça limite effectivement le risque quotidien d'oubli. Le patch, c'est 1 semaine, on le renouvelle donc 3 semaines de suite, après on reste 1 semaine sans rien. Comme l'anneau, on va le retirer aussi pendant 1 semaine au bout de 3 semaines. Puis après, on recommence une série. Donc c'était vraiment pour... Le souci, c'était qu'est-ce qu'on peut offrir aux personnes de manière à limiter ce risque d'oubli. L'implant, c'est encore plus long puisqu'il est posé pour 3 ans.
Et en termes de, vous parliez de remboursement, est-ce qu'il y a des femmes qui se privent de contraception sur la question des moyens financiers? Et à ce moment-là, quelles solutions apporter?
Alors, elles vont peut-être pas se priver de contraception, par contre, elles vont pas aller obligatoirement vers la méthode qui leur conviendrait le mieux. Hein, on était sur choisir sa contraception. C'est un frein dans le libre choix, finalement. Parce que quelqu'un qui penserait que peut-être, effectivement, l'anneau, ça serait une bonne solution pour elle, va peut-être pas aller vers ça, parce qu'il n'y a pas de prise en charge au niveau de l'anneau.
On va aborder maintenant un chapitre qui va intéresser ces messieurs, c'est-à-dire la contraception masculine. Une petite révolution est en marche, messieurs. Alors, la première solution assez radicale, c'est la vasectomie.
Oui, c'est assez radical, comme vous le disiez, hein, même si on sait que...
C'est réversible.
Alors, il y a un petit taux de réversibilité possible, sachant que je pense que ça serait malhonnête de dire à un garçon, à un homme, à un jeune homme... De toute façon, un jeune homme, oui, mais il faut être majeur. Hein. On ne peut pas demander une vasectomie tant qu'on est mineur, ce qui me paraît logique quand même. Et donc, le taux de réversibilité, il est faible. C'est vraiment le coup de poker. Donc, je crois qu'il faut être bien clair dans sa démarche. Quand on demande une vasectomie, il faut se dire que c'est de manière définitive. Il ne faut pas espérer. Il ne faut pas le faire en espérant une réversibilité. Donc là, effectivement... C'est fait une fois pour toutes. C'est assez peu pratiqué en France. Hein. Y a assez peu de demandes. Après, il y a des réticences aussi au niveau de l'accorder ou pas. Alors que théoriquement, c'est uniquement la personne qui décide. Il y a un protocole qui est en place. Il y a un délai de réflexion important entre la première demande et le renouvellement de la demande. C'est normal. C'est un truc définitif. C'est normal qu'on ait le temps de réfléchir. Mais théoriquement, ça devrait s'arrêter là. C'est parfois un peu plus compliqué.
Et puis, il y a une nouveauté dont on a entendu parler à la rentrée, ça s'appelle Vasalgel, c'est aussi très joli comme nom.
Oui, c'est assez vendeur aussi.
Alors c'est un gel à base de produits chimiques qui a des effets contraceptifs pour l'homme et qui pourrait être mis sur le marché en 2017.
Alors oui, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas exactement comment ces messieurs vont percevoir le truc. Hein. C'est un gel donc, qui se met dans l'urètre, qui va avoir un effet négatif par rapport aux spermatozoïdes. Après, n'ayant pas moi-même d'urètre, je ne sais pas l'effet que ça peut produire de manière dans l'imagination hein, des hommes, de se dire qu'ils vont faire ça. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a des garçons qui seront prêts à essayer. Maintenant, là, franchement, ça dépasse vraiment mes compétences. Globalement, déjà, quand on parle de pilule masculine, qui est en essai dans différents pays, il y a des protocoles qui sont en place, mais pour le moment, il n'est pas question d'avoir une autorisation de mise sur le marché en France. Hein. Déjà, ils ne sont pas très chauds, parce que, mais ça fait partie un peu de l'inconscient collectif, on va facilement confondre puissance sexuelle et fertilité. Donc, si je prends une pilule qui va faire que je vais être infertile pendant un moment, temporairement, est-ce que ça va avoir une incidence sur ma libido, sur ma capacité à avoir des érections, sur... Il y a toutes ces questions-là qui vont se poser, qui font qu'il y a quand même des freins importants par rapport à ça. Et même les filles sont un peu dubitatives. Parfois, dans les groupes, quand on fait des animations collectives, on demande aux filles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plairait que ce soit vos copains qui prennent la pilule un peu à votre place là? Et elles disent, ouais, sur l'idée, pourquoi pas, ça serait bien qu'ils se mouillent un peu là-dedans. Mais d'un autre côté, s'il l'oublie, c'est quand même moi qui suis enceinte au bout du compte. Donc c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué.
Il y a encore un travail à faire.
Oui. Et puis je pense aussi que... Ouais, il faut que les deux soient prêts. Hein. Donc il y a un travail à faire chez les hommes, mais aussi chez les femmes.
Merci beaucoup Pascal Adeline. Si on a donc des questions sur son mode de contraception, on va voir le planning familial.
Alors on peut s'adresser au planning, on peut s'adresser aussi au centre de planification, hein, qui sont des lieux ressources extrêmement importantes. Sachant qu'au planning familial, vous aurez de l'info, vous aurez de la parole. Par contre, on ne peut pas vous prescrire de pilule puisqu'il n'y a pas de médecin, alors qu'il y a des médecins en centre de planification. Vous pouvez avoir des consultes et des prescriptions.
Merci beaucoup Pascal Adeline d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
She looked at me one day, she chased my blues away. She chased my blues away with her sweet smile. I never dreamed I'd meet a girl so fine. There was something in her style, Mrs. Magic.
Mrs. Magic,
where have you gone?
Where have you gone?
Mrs. Magic.
nice to have her here tonight, Mrs. Magic. Where have you gone?
Mrs. Magic de The Excelsior sur Radio Campus Angers dans le sous-marin. Et tout de suite, on retrouve Thomas. Salut Thomas.
Salut Tiffen.
Avec Thomas, nous avions commencé la semaine dernière notre voyage dans les eaux internationales du côté de Hong Kong. Cette fois, on fait escale en Tunisie.
Oui, Tiffen, puisqu'après la révolution des parapluies, nous revenons à la source des mouvements pro-démocratie, la Tunisie, terre de la révolution de Jasmin. Rappelons-nous, c'était en 2011, Michel Alliomari, alors ministre des Affaires étrangères, s'adressait au président Ben Ali au pouvoir depuis 24 ans.
Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type.
La situation sécuritaire que proposait de régler Michel Alliomari, c'était un mouvement de révolution qui voulait destituer son dictateur. Cette guerre civile, elle provoqua la mort de 338 personnes. Elle provoqua aussi l'exil de Ben Ali en Arabie Saoudite et la création d'une assemblée constituante.
Depuis, la nouvelle constitution a été adoptée en janvier 2014 et les élections législatives ont lieu ce dimanche, c'est bien ça?
En plein dans le mille, Tiffen. Et contrairement aux premières élections législatives, le parti Ennahda n'est arrivé que second. Ennahda, c'est le parti qui fait peur à la presse occidentale. Interdit sous Ben Ali, le parti utilise la morale religieuse pour construire des projets politiques. Les médias français n'hésitent d'ailleurs pas à tirer des boulets rouges sur ce parti qui va à l'encontre de la laïcité, le traitant alors de parti islamiste. C'est rapidement oublié qu'en France, il existe un parti chrétien démocrate, celui de Christine Boutin, qui lui aussi utilise la morale religieuse pour construire des projets politiques. Sans parler dans un autre genre de la Confédération française des travailleurs chrétiens ou encore du Secours catholique. Un bon coup de balai devant notre porte, ça fait du bien de temps en temps, non?
Un bon coup de balai, c'est bien ce qu'a subi Ennahda ce dimanche.
Oui, Ennahda avait gagné en 2011, car c'était alors le seul parti largement connu des Tunisiens, en particulier grâce à ses actions de solidarité dans les quartiers défavorisés. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, les dirigeants d'Ennahda ont eu du mal à faire leurs preuves. En particulier sur le plan économique, le pays ayant du mal à se relever de la révolution.
Ok pour les seconds, mais comme dans toute course, ce sont les gagnants qui sont sous le feu des projecteurs.
Je vois que vous êtes pressé de connaître les vainqueurs, Tiffen, alors je vais vous présenter Nida Tounes.
Nida Tounes, c'est qui?
Un gros melting pot composé d'anciens opposants au régime de Ben Ali, mais aussi d'ex-dignitaires de la dictature.
Leur point commun?
Celui de mettre en avant un programme de bonne gestion économique.
Leur position sur la religion?
On la connaît grâce à une phrase du fondateur du mouvement, Beji Caïd Essebsi, qui a dit « L'islam de Nida Tounes n'est pas celui du mouvement Ennahda. Notre islam est tunisien, favorisant l'adéquation entre authenticité et ouverture. » Ouverture, c'est le mot-clé qui permet ainsi à la presse occidentale de simplifier le résultat de ces élections comme étant la victoire des laïcs sur les islamistes. alors que les deux parties revendiquent leur appartenance à l'islam. Mais là, on est bien loin des considérations des Tunisiens. Et c'est bien le problème, car au fond, c'est la question économique qui a motivé le choix des électeurs. Et les Tunisiens le savent bien. Le chômage, la précarité, mais aussi la possibilité d'entreprendre, ce sont les questions qui sont bien plus concrètes pour eux. Comme pour nous, d'ailleurs.
Je suppose qu'il n'y a pas que deux partis en Tunisie. Est-ce que tu as d'autres résultats, Thomas ?
Ouais, les autres partis, on en parle peu. Pourtant, il est possible que Nida Tounes fasse alliance avec eux. Si les vainqueurs de dimanche veulent gouverner, ils vont devoir négocier pour obtenir une majorité au Parlement. Ils pourront alors choisir de s'allier à l'Union des libéraux ou aux révolutionnaires écologistes de gauche qui ont tous deux fait plus de 5%. Sauf qu'avec seulement quelques pourcents supplémentaires, le compte n'y est pas pour être majoritaire. Nida Tounes pourrait même proposer une union nationale à Ennahda, qui reviendrait ainsi au pouvoir. Quel retournement ! Dans vos journaux, vous risquerez alors de trouver des titres, encore une fois simplistes, du genre « Les islamistes reviennent au pouvoir en Tunisie ». Mais cette fois-ci, vous ne tomberez pas dans le panneau.
Merci Thomas.
19h, 20h, le sous-marin, sur Radio Campus Angers.
Il a laissé Pierrot de côté pour reprendre son nom de famille. 2 ans après la fin d'une aventure qu'il aura tenue pendant près de 20 ans, il revient avec un projet solo qu'il présentera mardi prochain, 4 novembre, au Grand Théâtre, en première partie de Miossec, s'il vous plaît. Bonsoir Pierre Lebas.
Bonsoir.
Le 15 décembre prochain, ça fera 2 ans que vous avez donné votre dernier concert au micro de la Ruda, initialement Ruda Salska. Avec le recul, quel regard vous portez sur ces 19 ans ?
Oh, un regard bienveillant. On a eu la chance de rencontrer le public, ça nous semblait inespéré au départ. On a pu pendant 20 ans proposer vivre de notre passion, défendre notre musique en France, mais à travers le monde également, jusqu'au Japon. Ça nous a rendu heureux, je crois.
Avant de parler de votre projet, est-ce qu'on peut avoir un mot sur le reste de l'équipe ? Qu'est-ce qui se passe pour les ex-Ruda ?
Eh ben, chacun essaye de poursuivre son chemin, dans la musique ou pas. Manu à la batterie et tourneur dans Aliglou, une société de Tours. Fred à la guitare a un label qui s'appelle Casamix et continue de jouer avec d'autres artistes. C'est le cas également pour Richard, l'autre guitariste qui joue avec Benjamin Pia notamment. Voilà, et puis Philippe, lui, c'est le film du réel, il s'est lancé dans la vidéo. Voilà.
Vous, Pierre Lebas, on vous a notamment vu en avril dernier lors de la valorisation du projet Mélodie Nelson en compagnie de l'orchestre du lycée Joachim du Bel Est au Chabada, parce que vous œuvrez désormais auprès des publics et des jeunes en tant qu'intervenant musical là-bas. Comment ça s'est fait ?
Cette expérience a commencé il y a 4 ans au sein du Chabada. On m'a proposé d'animer des ateliers d'écriture. J'ai le goût des mots. J'aime écrire des chansons. Donc on m'a proposé de partager mon expérience, ce que j'ai fait bien volontiers, en toute modestie, hein, parce que c'est chacun a sa propre langue, son propre langage. Mais enfin, il y a des techniques à acquérir. Et puis on s'est proposé de diversifier ce parcours et notamment d'intervenir auprès du jeune public, et notamment des scolaires. Donc ce qui me permet aujourd'hui encore d'intervenir auprès des primaires, mais d'organiser, de créer des comédies musicales avec des collèges et puis avec les lycées, des choses un peu plus ambitieuses en termes d'un point de vue musical, ce qui nous a mené à Mélodie Nelson, qui a un album que cultissime, que je vénère. C'était pour moi un pari et puis une chance de pouvoir interpréter avec un orchestre ce sommet de la musique.
Vous parliez des ateliers d'écriture. Il y a une petite histoire qui court et qui veut que Jean Fauque, le parolier de Bachung, vous ait dit un jour que vous n'aviez pas besoin de ses conseils. C'est vrai ?
Oui, bah il a porté un regard bienveillant sur ma personne. Il était dans son rôle. Moi aussi, j'essaye d'encourager aussi ceux qui me font l'honneur d'écouter mes conseils. J'étais donc dans la situation d'un participant à ce stage. Et ça m'a été bien utile. Ça donne confiance. La confiance, ça peut suffire. Le dialogue. Quand on écrit des chansons, on est souvent esselé. On doute beaucoup. Et dialoguer de ça, en parler, ça peut donner confiance. Et la confiance est importante dans l'écriture parce qu'il faut arriver à vaincre une certaine impudeur pour libérer les mots. Et c'est quand on libère les mots qu'un artiste trouve sa personnalité. C'est ce qu'on va lui demander à un artiste, d'avoir un supplément d'âme.
Pierre Lebas, je le disais donc tout à l'heure, le 4 novembre, donc mardi prochain, vous présenterez au Grand Théâtre votre nouveau projet solo. Un projet que vous avez mené en toute discrétion. En tout cas, c'est difficile de trouver des infos.
Eh oui, parce qu'il n'existe pas ce projet encore. Il existera le mardi prochain.
Il existe, on peut le trouver sur Internet, oui. Sur Bandcamp.
Oui, oui, c'est vrai.
Ça s'appelle Tigreville. Comment c'est venu cette idée de projet ?
Oh, comment elle est venue cette idée ? C'est toute simple. Quand on fait de la musique, soit on décide d'arrêter d'en faire ou de continuer. Quand la Rouda a fait son dernier concert il y a 2 ans, moi j'avais dans l'idée de continuer à écrire des chansons et à les interpréter, pourquoi pas. Donc, comment faire ? Dans quel axe se situer ? J'ai toujours eu le goût de la chanson française, le goût des mots. J'avais envie d'explorer un autre versant de mes écoutes, là où la Rouda était volontiers... explosif, sur des rythmes très soutenus. J'avais envie de m'autoriser la lenteur, de placer les mots au centre du propos, sans pour autant négliger l'aspect mélodique, hein, sans pour autant sacrifier l'aspect basse-batterie-guitare. Donc, de me situer dans une sorte de pop à la française, ce qui est assez casse-gueule, hein, c'est assez périlleux, c'est cet équilibre. Voilà. Et puis de faire mon chemin, ça a demandé un an et demi de travail. Il a fallu aussi rencontrer des musiciens. J'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Asseline du groupe Ecolove, Florian Chérault, Gilles Théolier, qui étaient mes ingénieurs du son avec la Rouda. Et puis on a commencé à façonner ce projet qui aujourd'hui, mardi prochain, verra le jour, parce que ça sera le premier concert tout bêtement. Donc j'espère que ce sera le début d'une nouvelle aventure. On ignore tout de l'avenir, hein, quand on fait de la musique. C'est aussi ce qui est excitant, c'est aussi ce qui est inquiétant.
Est-ce que c'est plus difficile, c'est une méthode différente quand on travaille pour soi dans un projet solo, même si vous avez bien dit que vous étiez accompagné, que quand on s'inscrit dans un groupe comme la Rouda ?
Oui, c'est difficile parce que on a une dynamique de groupe et puis tout le monde est engagé va dans le même sens. Les volontés sont mobilisées. On a des habitudes, hein, 20 ans de Rouda, 1000 concerts, je ne sais combien de répètes. Bon, voilà, il y a une solidarité qui s'installe et puis ça édulcore un petit peu les responsabilités. Là, proposer un projet sur son nom, j'avais le goût de ça, parce que j'avais envie de diriger artistiquement le propos pour aller vers des choses que je n'avais pas explorées avant, hein, d'être plus chanson, plus sur les mots. Et donc il faut ça demande un petit peu plus de temps, il faut rencontrer les bonnes personnes et puis arriver à humainement trouver ce lien. Pour arriver à un premier nœud de 5, 6, 7 morceaux pour définir le profil de notre musique.
Alors justement, ce profil, il y a 5 morceaux en ligne sur Bandcamp. À l'écoute de Dans ton champ de tir, on pense à Bachung. À l'écoute de Train de nuit, on pense aux années 80, à Dao. Je ne sais pas si c'est ce vers quoi vous vouliez tendre, mais en tout cas, c'est ce que ça inspire. À quoi vous pensiez quand vous avez... écrit, vers quoi vous vouliez aller ?
Les références sont assez simples, hein, en pop, avec les mots en français. Hein, on a Gainsbourg, hein, évidemment, on aime tous Gainsbourg, enfin bon, on est nombreux. On pense à Bachung, on peut penser à Dao. En fonction de la façon dont on va placer sa voix, en fonction de la musique qu'on va se proposer de mettre en dessous, on va forcément, je crois... faire référence à ces messieurs, c'est surtout pas une faute de goût. Il faut se décomplexer par rapport à ça. Il faut aussi apprendre. Il faut pas hésiter à leur emboîter le pas et puis petit à petit trouver sa personnalité, trouver ses propres mots évidemment, mais trouver son terrain de jeu musical. Gainsbourg, Bachung, ce sont des gens que j'écoute beaucoup, que j'ai en ligne de mire. Je n'ai pas la prétention évidemment d'arriver, ne serait-ce qu'à leur qu'à leur taille, mais si je peux moi trouver mon chemin dans ce trajet difficile qu'est la pop à la française, en tout cas j'ai bien envie de m'y risquer.
À quoi il faut s'attendre mardi soir au Grand Théâtre et mercredi à Stéréolux donc ?
Il faut s'attendre à quelque chose de différent si on a vu la Rouda et si on est dans cette perspective. Donc là, les moteurs sont inversés. Il faut s'attendre. Quelle question
curieuse.
Ah voilà, Concrètement, concrètement j'aurai trois musiciens autour de moi, hein, basse, batterie, guitare, et puis il y aura des claviers également. Il faut s'attendre à quelque chose de réussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a parlé d'un point de vue esthétique des choses, déjà, à charge pour moi d'être à la hauteur, et puis d'envoyer les bons signaux, d'essayer de séduire, pourquoi pas convaincre, ça serait bien prétentieux, mais séduire, pourquoi, ça m'irait bien déjà.
La première partie de Miossec, qu'est-ce que ça représente pour vous ?
C'est inespéré pour moi de commencer, faire un premier concert au Grand Théâtre d'Angers. Déjà, l'écrin est joli, hein, c'est un endroit rare. Je n'avais pas dans l'idée d'un jour y jouer, donc ça c'est déjà une première réussite. C'est toujours un rêve hein, de jouer dans ce type d'endroit, comme de jouer avec un orchestre, pour revenir à Melody Nelson. Miossec, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est une gueule de la musique, c'est quelqu'un d'authentique, tout de suite reconnaissable. Ça, c'est des artistes qui sont assez rares. Donc pour moi, c'est un grand honneur, ça me permet de me tester dans des conditions inespérées.
Et après ces deux dates, Pierre Lebas ?
Après, bah, Pierre Lebas, qu'est-ce qu'il va faire ? Pierre Lebas, il va continuer, il va retourner sur ses guitares, ses claviers, sur son cahier, il va essayer de faire d'autres chansons encore et encore pour accoucher d'un album l'année prochaine, qui devra voir le jour, parce que ça fait La Rouda s'est arrêtée il y a 2 ans, maintenant je pense que je serai dans le bon tempo en proposant un album l'année prochaine. Reste à le finir, je vais jouer 35 minutes hein, mardi prochain. Et puis j'espère, je serai sur les routes l'année prochaine, notamment à partir de septembre, ce qui correspondra, je l'espère encore, à la sortie de l'album.
Dernière question, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, si on laisse de côté les grands, les historiques évidemment
En ce moment, j'écoute beaucoup Nick Cave, beaucoup. Pooja Scalloway, des choses de cet ordre. Nick Drake aussi, des choses assez aériennes.
Pierre Lebas, donc on vous retrouve mardi prochain au Grand Théâtre. Et puis si on veut acheter une oreille, c'est pierrelebas.bandcamp.com. Donc nous, on va aussi jeter une oreille maintenant dans le sous-marin. Ça s'appelle Dans ton champ de tir. Merci beaucoup Pierre Lebas.
Merci à vous.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et tout de suite, on accueille Anaïs qui va tout de suite nous parler de son album coup de cœur de la rentrée. Salut à tous! Aujourd'hui, je change un peu de registre pour vous parler d'un groupe que je commençais à oublier, et ce groupe n'a rien d'autre que The Drums. Ces garçons de Brooklyn à l'indie pop très teenager, influencés par The Smiths et les Joy Division, qui avaient marqué les esprits avec leur titre Let's Go Surfing, que vous entendez à l'instant, ou encore le morceau Submarine, qui donne tout son sens à cette émission. Mais bienvenue en 2014, et comme de nombreux artistes oubliés, ils refont enfin surface. Sans doute à cause de leur changement de label, ils avaient longtemps bossé avec Moshi Moshi Records et ont récemment signé chez Minor Records.
Et pendant combien de temps se sont-ils fait attendre ?
3 ans. Sans grande nouvelle depuis 2011, ils reviennent avec un nouvel album intitulé Encyclopédia. Toujours avec des sonorités très romantiques et mélancoliques qui leur sont propres, ces garçons donnent la pêche. Impossible de se lasser de leurs textes qui nous touchent par leur véracité, on ressent dans cet album un décrescendo. En fait, on passe d'une humeur bucolique à une humeur mélancolique, qui me fait vraiment penser à The Management, MGMT. Jonathan Pierce, le chanteur, nous enchante toujours avec sa voix de teenager déchue, un peu mal dans sa peau, et les paroles sont toujours aussi poignantes. Le duo de choc reprend du poil de la bête, et sont déjà en route pour une grande tournée autour de la planète Terre. À écouter sur YouTube, Spotify, Deezer, cet album est tout simplement une bouffée de fraîcheur, et il vaut vraiment le coup de l'avoir attendu aussi longtemps. Encyclopédia a été écouté sans modération, du café du matin à la tisane du soir.
Et où est-ce qu'on peut sortir sur Angers dans les prochains jours ?
Alors, vendredi 31 octobre à 21h au Shabada, je te propose d'aller voir Brains. Donc, c'est un groupe de pop, ce sont des Belges. C'est assez calme, nostalgique et lancinant. Genre Alger, Arcade Fire... D'ailleurs, leur interview est en ligne sur notre site. Ils ont été interviewés il y a 2 semaines.
Sur le www.radiocampusangers.com.
Parfaitement. Et ils seront accompagnés de Ungard Thorsen. C'est un groupe de folk, blues, rap, de cow-boys qui viennent d'Angers et de Nantes. Donc ce sera autour de 13 euros les tarifs.
Et ensuite ?
Ensuite, donc dimanche, si vous n'avez rien à faire, allez donc à la Domingo. Donc la Domingo, c'est au bar du quai. C'est une après-midi électro qui débute à 15h avec QWERTY, Arnaud Gonzalez, Nice to Meet You et Cedecimo, qui font partie les deux derniers de Solid Records. C'est ouvert à tous les spectateurs de tout âge et de tout horizon, de 15h à 17h. Donc c'est gratuit de 15h à 17h. Ça se termine sur les coups de 20h-21h. Et l'entrée est à 3€ à partir de 17h. Voilà.
Ça c'est noté, c'est pour dimanche.
Voilà. Ensuite, mardi 4 novembre à la médiathèque Anita Conti à Beaucouzé, je vous propose d'aller voir un film gratuit qui s'appelle La maison de la radio de Nicolas Philibert, et cette séance sera suivie d'une discussion avec Thierry Steiner, journaliste et directeur de France Bleu Maine. Donc ça, c'est à 20h. Et mercredi, pour finir, je vous invite à aller au concert de Cats and Trees. Donc, vous devez connaître, c'est un groupe de pop rock français originaire de Toulouse qui seront accompagnés de Healthy Boy, un groupe où il me semble qu'il est tout seul, de folk blues indie. Lui, il est de Nantes, donc ce sera à 20h au Shabada, entre 19h et 27... entre 19€ et 27€. Donc de quoi s'en mettre plein les esgourdes jusqu'à notre prochain rendez-vous.
Merci Anaïs.
Ciao.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perme de ce soir, ça se passe au Jacaré à 22h avec Brothers Vibes, Lion Killa, Dadawa Sound, Jukla Sound et c'est gratuit. On termine cette émission avec la traditionnelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Hier soir, les geeks de Pas de Panique ont causé musique de jeux vidéo. On écoute la chronique de Clavette.
Vous pensez que faire de la musique pour jeux vidéo n'est pas un vrai métier ? Eh bien, dans les années 70, quand tout a commencé, vous auriez eu raison. Au début, les musiques de jeux vidéo se résumaient à des bip-bip et des blop-blop qu'on mettait en rythme. C'est ce qui créait l'identité d'un jeu. Mais par rapport à aujourd'hui, c'était assez limité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les musiques des jeux vidéo n'étaient pas de vraies musiques. On ne pouvait pas, pour des raisons techniques, mettre une vraie musique enregistrée avec un micro dans un jeu vidéo. On devait se contenter de quelques effets sonores ou de boucles musicales programmées qui étaient ensuite interprétées par la console. Et bon, bah, le rendu final devait être assez minimaliste au final. Mais si on écoute la musique de Pac-Man qui date des années 80, c'est quoi? C'est 4 secondes de synthé au début de la partie et un petit oui, blop blop quand on perd. C'est pas très très complexe. Pour ce qui est de la qualité de la musique, ça dépendait au final plutôt de la qualité de la console qu'on possède plus que du talent des gens qui les composaient. Par exemple, la console Atari 2600, qui est une console de salon des années 80, ne pouvait générer que 2 tonalités différentes en même temps.
La totalité de la chronique de Clavette et de l'émission Pas de panique est à retrouver sur le www.radiocampusangers.com. Ce soir à 22h, vous retrouvez l'émission Musiques urbaines de RCA, La Mine, qui reçoit ce soir 4 crises. Merci à Anaïs et Thomas, merci encore à Thomas qui a co-préparé cette émission et à David pour la réalisation. Nous on se retrouve lundi dès 19h, passez un très bon week-end et une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous!
Trouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.